Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver par les temps qui courent. C'est tous les soirs une heure d'entretien avec un ou une artiste, ce soir le réalisateur Oliver Latché.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du pota pepe te pepe.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Oliver Latché.
Viendra le feu, c'est le titre de votre nouveau film, Oliver Latché. Ce futur dans le titre, ce viendra, on ne sait pas si c'est un constat, calme, un oracle ou une menace. Dans une forêt de Galice, vous filmez le retour d'un vieux fils, pas prodige, celui-ci, un fils condamné pour pyromanie. Il trouve sa mère courbée au travail dans le potager, sans effusion de retrouvailles, pas de mots, pas de questions, sauf pour savoir s'il a faim. Amador, c'est son nom, Benedicta, c'est son nom à elle. Ils vivent, ils reprennent une vie près de plusieurs vaches dont ils prennent soin et observent des jeunes gens retaper une ruine dans l'espoir de voir débarquer les touristes. Vous signez un film sur la figure du paria, sur la fin annoncée d'un mode de vie rural et fondu dans le vivant, les arbres et les animaux. Un cheval aux yeux brûlés clôt cette histoire, un cheval qui peut-être ne veut pas voir ça. Bonsoir Oliver Latché.
Bonsoir.
Votre film sort en salle aujourd'hui, il a obtenu le prix du jury au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, et puis vous me l'apprenez parce que j'étais passée à côté. Il a aussi obtenu le prix de la meilleure création sonore. Alors ce viendra dans le titre, il dit quoi pour vous ?
Il a quelque chose de prophétique et de mythique qui me plaît. On le sait, les prophéties sont cycliques. Le temps des mythes n'a pas de chronologie, il n'y a pas de passé, de futur. Le feu arrive toujours et le fil purifie toujours. Ça me plaît, cette idée d'un feu qui apparemment est quelque chose à une connotation négative, un feu par contre qui peut être aussi positif, non ?
D'ailleurs, à la toute fin, rien n'est tranché. On ne sait pas du tout si qui que ce soit regrette le feu. Évidemment, le feu est filmé comme quelque chose qui détruit cette forêt. Mais on se demande si ce viendra le feu n'est pas presque comme un appel. Comme un appel du feu qui, justement, serait purificateur.
Écoutez, le cinéma est quand même une invocation assez magique. Il faut faire vraiment attention aux films qu'on fait. Je suis assez dérouté, surpris aussi qu'on sort le film la semaine où il y a plus d'incendies de l'histoire de l'humanité, quasiment. Il faut faire attention. D'ailleurs, entre parenthèses, une petite anecdote, le film a été élu à Cannes le jour que Notre-Dame a brûlé. Le pouvoir du cinéma est très très fort. C'est vraiment un outil, comme je disais, d'invocation. C'est une prière qui peut être très positif ou très négatif. J'ai le feu quand même est un des personnages du film. Et le plus important dans ce processus créatif que j'ai fait, c'est que j'ai tourné dans le village où ma mère est née, le village où tous mes ancêtres. Ont habité pendant des siècles et ça a été quand même dans ce sens une invocation très très structurelle, très essentielle, une belle médecine.
Vous croyez à ce que vous dites, à quel point Oliver Latché, que le cinéma est une invocation puissante? Est-ce que vous pensez que vous manipulez des choses qui peuvent être extrêmement dangereuses en faisant des images?
Oui, je considère que la relation entre une image et le métabolisme humain, déjà, est très mystérieuse. Si ça se passe quelque chose, il y a des images qui nous transforment, il y a des images qui nous accompagnent, qui nous habitent. Ça peut être positif ou négatif. Il y a des images qui nous éveillent, il y a des images qui nous donnent de la chaleur, mais il y a d'autres qui sont assez pernicieuses. Après, personnellement, je crois que notre essence, l'essence de chaque artiste, dans ce cas la mienne comme cinéaste, quand on est connecté à elle, parce que faire du cinéma, c'est se connecter avec cette partie essentielle qui est en nous, quand on se donne à ça, voilà, le cinéma, enfin les processus créatifs nous plongent dans des régions de notre être, de notre lignage, de nos passions, de notre inconscient qui fait ramener des choses, bien évidemment aussi par rapport à notre relation avec un inconscient collectif. Enfin, il y a quand on s'abandonne, quand on n'est plus auteur, quand on est vide, quand on se vide, et on se connecte à quelque chose. Oui, on est un sismographe de quelque chose. À travers nous, il y a des choses qui jaillissent. On est un peu des outils. On peut être des outils de quelque chose de transcendant qui nous utilise pour exister, pour résumer.
Donc, deviendrait le feu, vous ne seriez pas l'auteur, en fait, Oliver Laché.
Mais oui et non. Malheureusement, le cinéma est quand même un art...
qui aime bien les auteurs.
Qui aime bien les auteurs. Quand on tourne, c'est un processus créatif très très dur. On est beaucoup dans la peur, on est beaucoup dans l'ego quand on tourne. Dans un tournage, on calcule beaucoup le temps, l'argent, les gens, beaucoup de questions, il faut prendre des décisions tout le temps. Donc on est beaucoup dans l'ego. Et quand on est dans l'ego, dans la création, il y a rien qui... Enfin, moi je crois à l'inspiration, je crois à l'imagination, je crois à l'image.
Et vous pensez que l'ego est une barrière pour tout
ça ? Est une barrière, effectivement, c'est un voile. Et donc on n'entend pas, on n'écoute pas, on n'est pas là, on... rien passe à travers ce voile, non? Donc c'est assez contradictoire, non? Enfin, c'est...
Alors vous faites comment? Si pendant le tournage l'ego est très présent, vous démolissez l'ego pendant le tournage?
On mûrit avec les films. Je crois aussi dans ce film j'ai quand même eu un rapport d'acceptation avec ce que la vie m'a donné. Enfin, j'étais quand même un peu plus dans le contrôle de soi, donc dans l'écoute. Aussi, je crois que j'ai quand même un taux d'insécurité que je crois qui est très nécessaire dans la création artistique. Donc ça me fait être beaucoup à l'écoute aussi des gens qui m'entourent. C'est vraiment un travail d'équipe avec les acteurs, avec ton équipe technique. On sait jamais d'où viennent les idées. C'est contradictoire. C'est le film commence quand on n'est plus là, non, on dirait, non. C'est un art de soumission. Je crois. Et c'est ça qui est beau aussi du cinéma, parce qu'on pourra jamais faire le film qu'on veut. Enfin, on peut jamais traduire ces idées qu'on a dans nos têtes, parce que la vie, elle s'impose. Et ça qui est très frustrant, et qui nous fait souffrir, aux cinéastes. Et la beauté, ce qui est intéressant du cinéma, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous transcende toujours. Et c'est ça qui est puissant du cinéma, c'est que nos images peuvent être habitées par cette chose qui est plus forte que nous, qui nous transcende. Si on s'abandonne, bien évidemment. Mais on s'abandonne ou pas, le cinéma nous traçant, nous dépasse. Donc,
le cinéma ou la vie, puisque la vous vie, dites finalement, c'est surtout ça qui nous dépasse, peut-être encore plus quand on filme une vache, de la lumière, de la pluie, du feu ou une forêt.
Et moi, je suis une personne quand même qui est très perfectionniste. Donc, je crois que je fais du cinéma, enfin, je commence à comprendre que je fais du cinéma pour lutter contre cette quête de perfection, non, pour plutôt, voilà, arriver à une acceptation, un détachement, oui.
Vous dites, Oliver Laché, vous avez probablement raison, que le feu est le personnage principal de ce film. Moi, je dirais que la forêt est presque à égalité, sinon plus encore. On va écouter Marie-Pierre Grosjean parler d'elle.
Déjà, aller dans une forêt, ça n'est pas neutre. Entrer dans une forêt, c'est entrer dans un monde très différent du monde habituel. D'abord, c'est un monde très ancien, la forêt. C'est le premier habitat de l'homme. Ils étaient dans ces univers qui sont comme des ventres humides, hein, les forêts, on imagine des choses quand même qui sont où le soleil ne perce qu'à travers une alternance d'ombre et de lumière et des jeux de lumière. Donc il y a toute un foisonnement de formes, de sensations dans une forêt, et aussi l'importance de l'humidité, donc qui ramène aussi au ventre de la mer. Donc il y a une analogie entre le premier homme, la première forêt. Alors dans cette forêt comme ça indistincte, qui est la végétation originelle, apparaît l'arbre.
Et c'est un peu comme ça que commence votre film. Il y a une apparition des arbres à l'écran qui mystérieusement vont se pencher, comme être soumis à du vent, même à un souffle d'emblée assez mystique, et puis ensuite être fauchés, comme des blés, aussi facilement que des blés à l'écran, Oliver Latché. Mais ce qui m'intéresse dans ce que dit cette femme, c'est qu'elle convoque l'humidité pour parler de la forêt. Et malgré le feu du titre de votre film, pendant une grosse partie du film au départ, on est dans la flotte jusqu'au cou, dans la boue, dans la pluie, dans les rivières. Alors c'est étonnant, vous la pensez comment? Vous pensez comment le corps d'une forêt? Comme quelque chose de brûlant, de brûlé, ou comme on vient de l'entendre, quelque chose de plein d'eau?
Dans tous les cas, c'est un horizon. La forêt, c'est où on, personnellement, j'aimerais bien me dissoudre un jour, non? Sortir du langage. Dans l'art, l'être humain moderne, l'artiste, on a trop de monde intérieur. Et on n'est pas là, on n'est jamais dans le lieu. On est des fois dans le paradis quand on fait une promenade, mais on se regarde les pieds. Bien évidemment, je me vois aussi comme ça, et voilà, c'est pour ça que toujours dans mes films il y a une tombée dans la forêt, dans la nature. En même temps, en parallèle, c'est une des plus grands plaisirs que j'ai, c'est de marcher dans une forêt quand il pleut. En Galice, en hiver, il pleut beaucoup, même en été. Et j'adore me mouiller surtout pour le plaisir qu'il me donne de revenir à la maison et de faire le feu et de réchauffer mes vêtements, de mettre des petites châtaignes dans la cuisine. C'est aussi des sensations. Enfin, la forêt, elle joue dans un sens très épidermique dans mon cinéma. Enfin, j'aime bien, on la sent. Il y a des odeurs, il y a des sensations, et en même temps, c'est quand même quelque chose aussi de très transcendant. C'est comme vous avez dit, c'est la maison. On retourne à la maison. Elle évoque voilà un monde où il n'y a pas de distance entre l'être humain et ce qui l'entoure. Mes personnages, Amador et Benedicta, ils sont petits dans cette nature. Ils le sentent, mais ils sont ok. On se sent en petit. Ils sont pas dans une dialectique sujet objet. Ils ont pas cette fracture de l'être contemporain. Voilà, ils sont dans la maison. Moi, je me souviens des très bien des récits de mes grands-parents quand j'allais là-bas. Ils me parlaient de grandes tragédies, de grands moments de mort. Mais ils le faisaient avec un détachement, avec une acceptation de laquelle j'étais très ému, même si j'étais très petit. Et je crois que c'est dû à cette maturité qu'on a quand on habite vraiment proche de la nature. Quand on est dans l'orbite de la nature, il y a une transmission secrète de la nature à l'être humain. Il y a une sérénité qui prend place, un silence, non? Et bon, on a voulu évoquer un peu tout ça dans le film.
C'est étonnant précisément que vous utilisiez le mot de dissolution, Oliver Latché, parce que moi, il y a une image qui m'a beaucoup frappée, qui est une image de Benedicta qui rentre dans un tronc d'arbre, un tronc d'arbre qui est creusé, comme ça arrive parfois, et en fait, la taille du trou correspond exactement à sa taille de petite bonne femme. Et ça m'a fait penser à l'Indonésie et à la manière dont on loge dans les troncs les nouveau-nés qui sont morts, les petits-enfants. Et donc, dans ce plan-là, il y a vraiment, il me semble, quelque chose d'une manière de ne plus du tout différencier dans la vie et dans la mort le vivant humain du vivant, du reste du vivant.
Oui, en fait, quand on observe, c'est très beau tout ce qu'on parle, comment on parle de la nature, en même temps qu'on voit un beau paysage. Paysage, que c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que c'est un peu une abstraction, ça n'existe pas, enfin, dans la nature. Quand on voit la nature, quand on est face à la beauté, on doit être conscient que pour que cette beauté existe, il y a des centaines, des milliers de sacrifices qui se produisent à l'intérieur de cette nature. Il y a de la mort constamment pour que cette belle image que le poète regarde puisse en jouir et la transmettre, non? Il y a quelque chose qui nie la vie dans la vie. D'ailleurs, le feu, on le voit, les pompiers dans notre film, quand ils veulent arrêter le feu, ils sacrifient, ils font un contre-feu, ils sacrifient la nature. Il provoque de la mort pour sauver.
Pour tout vous dire, tout à l'heure, je revoyais un des plans et j'ai appelé Jeanne et Romain en leur disant, mais je comprends pas, ils mettent le feu. Est-ce que je vois bien, ils sont en train de mettre le feu? Et en effet, c'est ça, c'est les contre-feux, donc, j'ai appris ça, que les pompiers allument un feu, brûlent une partie pour contrer le grand feu qui par ailleurs ravage.
Oui, ils détruisent le combustible pour que le feu s'arrête. Il n'y a plus rien à brûler, non? C'est d'ailleurs une image assez puissante qu'on a vécue en tournage. C'est le moment où les deux feux s'attirent. Il y a l'oxygène au milieu des deux feux qui commence à diminuer. Donc, les deux feux s'approchent de plus en plus vite. Il y a une espèce de coït, de fusion des deux feux avec des effets de lumière et de son qui sont assez... transcendantal, enfin assez mystérieux. Comme toujours, la vie, elle est très juste. Quand on a présenté cette image, que c'était une image cherchée, on avait plus de pellicule. on n'a pas pu filmer ce moment, mais.
Et vous trouvez que c'est une bonne chose?
C'est une bonne chose?
Oui, quand vous dites la vie, elle est très juste.
Elle est juste dans son injustice. Je l'idéalise pas, la vie. Je suis ce qu'on appelle techniquement on pourrait appeler un croyant. Donc, j'ai la certitude du cœur, hein, pas la certitude moderne, idéologique. J'ai la certitude du cœur. J'ai la foi que la vie, même si elle, comme je disais avant, elle se présente à travers la douleur ou la souffrance, il y a quelque chose de positif derrière. C'est difficile à voir dans le présent. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours une épreuve. Et ma petite expérience comme artiste, comme réalisateur aussi me fait prouver ça. On est des fois en train de se frustrer en tournage parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, mais quand on est en montage, on se rend compte de notre petitesse, enfin de notre... on n'est pas capable des fois d'accepter un peu ces cadeaux voilés, on va dire, non, de la vie, non. J'ai quand même un peu ce regard de la tradition. Je trouve que les films se font à travers le sacrifice de tous ces acteurs, surtout le réalisateur. J'aime beaucoup d'ailleurs le mot sacrifice, qui a une connotation des fois un peu négative, mais sacrifice, sacrifice, se faire sacrer à travers la douleur, non? Moi, on pourrait résumer ce que je veux montrer avec mes films, avec Mimosa aussi. C'est un concept que j'aime beaucoup. Je l'appelle la souveraine soumission. Soumission, qui est un mot que la modernité a un peu kidnappé. On pense à la soumission et on pense à la soumission de quelqu'un face à un autre être. Moi, je lui donne une connotation un peu plus transcendantale. Enfin, c'est la soumission face au monde, à la vie, à Dieu, comme on veut l'appeler. Et souveraine parce qu'elle nous fait libre. C'est accepter qu'on n'est pas libre qui nous fait libre. C'est accepter qu'on est des esclaves, pour le dire autrement, qui nous fait libre. Donc, le chemin de la liberté serait cette acceptation que la vie, c'est de la souffrance, pour résumer, non? Et c'est un peu ça que j'insiste, c'est un peu ça que j'ai appris, que j'ai senti dans les paroles et dans le ton et dans les gestes de mes grands-parents, de ma famille.
Non? Et justement, pour en revenir aux personnes que vous filmez, Amador et Benedicta, vous pensez qu'ils sont soumis à quoi? Ou qu'ils sont les esclaves de quoi, pour reprendre vos mots?
Je sais pas s'ils sont conscients ou pas, mais par exemple, Amador...
qui est donc l'homme qui revient.
Qui revient, je crois que, bon, face au problème qu'il a avec quand même la communauté, avec les villageois qui ne le comprennent pas quand même. C'est quelqu'un qui est très sensible, mais qui n'a pas les outils pour vivre dans ce monde. Et on le sait, ce monde, malheureusement, n'aime pas la fragilité. Et lui, il est très fragile. Donc il a ses problèmes, mais je crois que peut-être que lui, il sait, ou au moins inconsciemment, il sait que son papier, son rôle dans la vie, c'est d'être un espèce de martyr, non?
Son papier?
Son rôle, enfin, c'est quelqu'un qui doit, on va dire, purifier un peu la communauté, non? Enfin, c'est une espèce de figure d'expiation, c'est un espèce de Christ, non? Qui accepte aussi ses douleurs, non? Il y a une séquence dans laquelle, voilà, il accepte je crois, avec noblesse et dignité ce que la vie lui donne.
Algunas revuelas están secas.
Il y a des arbres qui sont un peu secs.
Eran o cancro.
Ils doivent avoir le cancer.
Las follas quedan sin picarreches.
Les feuilles deviennent toutes rabougries.
Se tocan en las, parece que están queimadas.
Quand on les touche, on dirait qu'elles sont brûlées.
Dicen que fueron unos camiones que vinieron de fuera.
Il paraît que c'est dû à des camions venus d'ailleurs. Ils étaient infectés. D'où ils venaient ces camions? D'une autre planète?
D'Australie.
D'Australie.
Ou d'un laboratoire.
Ou d'un laboratoire.
Mire comment sobresalen por encima dos otros.
Regardez comme ils dépassent les autres.
Los eucaliptus salen a toda mecha buscando el cielo.
Les eucalyptus, ça pousse droit, en cherchant le ciel.
Sus raíces pueden tener kilómetros de longo.
Leurs racines peuvent faire des kilomètres.
Les escarabellas debajo de ellos.
Et si tu grattes en dessous,
de la raíz,
tu trouves un maillage de racines.
Igualito con saco bello de patacas.
Comme un vieux sac de pommes de terre. La moindre plante qui essaye de pousser, il l'étouffe. C'est une plaie. Pire que le diable. S'ils font souffrir, c'est parce qu'ils souffrent.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Benedicta, qui est la mère, et Amador, qui est le fils, qui sont sur le flanc de la montagne et qui observent la forêt au loin. C'est un extrait de votre film Oliver Lachey, traduit par Romain de Becdelièvre. Dans ce dialogue revient ce dont vous parliez tout à l'heure, la souffrance, mais aussi peut-être cette idée du paria, de l'étranger, de ce qui est venu d'ailleurs, sous la forme de l'eucalyptus, et aussi sous la forme d'Amador, parce qu'Amador, vous le disiez, quand il revient dans cet endroit, il est beaucoup regardé, il est beaucoup craint, il est beaucoup stigmatisé. Qu'est-ce que ça a comme place, cette idée-là du paria et de l'étranger, dans l'écriture de votre film, vous qui n'en êtes pas l'auteur?
Par rapport aux arbres, qui évoque beaucoup aussi le monde des êtres humains. Bien évidemment, l'eucalyptus, c'est une vraie plaie pour différentes raisons. Je peux m'identifier avec ce qu'Amador dit. Après, sa mère, ironiquement, lui dit, mais il vient d'où? D'un autre planète? Enfin, c'est quand même un arbre de chez nous, on va dire. Non c'était une manière de un peu de me défendre d'un certain romanticisme nationaliste. Bien évidemment, je me considère galicien et j'aime beaucoup la Galice, mais bon, les artistes, malheureusement, on n'a pas de patrie, on est un peu des étrangers, on est aussi des outsiders, non? J'aime bien cette phrase qu'elle dit, Benedita, à la fin. Elle dit oui, peut-être ils font souffrir, mais s'ils font souffrir, c'est parce qu'ils souffrent, non? Je crois que c'est au cœur des intentions de ce film, non? De casser, enfin, de faire un film sur l'amour, basiquement. Enfin, l'idée de l'amour, c'est ça, c'est de comprendre que, enfin, de pardonner, de comprendre que qui fait du mal, c'est parce qu'il a du mal, non? Ouais, c'est cette miséricorde, ce pardon que j'ai voulu faire ce film. Peut-être, comme je disais avant, je parlais de ma quête de perfection dans ma vie, en fait, comme personne. Quand même, je me considère aussi une personne qui juge beaucoup. Je suis une personne que, comme Amador, des fois accuse, non? Je crois qu'on le fait un peu tous. Après, heureusement, la vie me met à ma place, je crois que c'est quelque chose que je dois travailler en moi. C'est pour ça peut-être que j'ai fait ce film. Je crois que les artistes, on doit quand même voir ces choses. On doit essayer un peu de voir pourquoi, quelles sont les raisons qui nous poussent à faire un processus créatif. Il y a une région de ma personnalité que je dois développer. Qu'est-ce que je dois apprendre derrière? Pourquoi j'ai ce besoin, cette obsession de faire ça? Donc peut-être que j'ai dû faire un film sur l'amour parce que il m'en manque. En tout cas, comme tous les artistes, comme toutes les personnes, vous aussi comme journaliste, tous, on a un besoin d'amour. Chacun le demande à sa manière. Je crois que les artistes, on le demande à travers le travail, beaucoup, non? On dit aux gens, les spectateurs, on leur dirait quelque chose comme « Regardez ce que je fais, aimez-moi », non? Donc peut-être que Benedicta, c'est un peu notre maître, c'est un peu, il faut...
Oui, elle est très sage, elle est tout le temps très sage, dans la manière dont elle accueille son fils, en lui posant aucune question, il revient, on sait pas d'où, on sait pas exactement ce qu'il a fait, on sait juste qu'il a causé des feux criminels, et elle lui demande juste, presque dans le silence, elle lui dit « Est-ce que t'as faim ?» L'accueil, il est inconditionnel, il est total, il est parfait, d'une certaine manière. Elle s'appelle Benedicta.
Elle s'appelle Benedicta dans la vie réelle, la bénie. C'était un peu nous les bénis avec elle. C'est une femme de 85 ans, d'une beauté scandaleuse. Elle est très habitée. C'était important d'avoir des gens très habités dans leur silence, dans leurs gestes, pour faire ce film essentiel. C'est un film duquel on a fui un peu de... On voulait fuir de la psychologie, de la pseudo-psychologie. D'ailleurs, Benedicta est une femme très très puissante. Elle parle beaucoup. C'est toujours le centre d'attention. Elle a une énergie très haute. Et c'était même un problème pour nous pour faire ce film parce que j'ai eu la sensation que les spectateurs allaient psychologiser le film. Les spectateurs avec une mère puissante allaient dire ah ok alors c'est une mère qui castre son fils. Non et on a dû faire un travail de diminuer un peu cette énergie. C'est une femme. C'est une vraie femme. Enfin, elle est la Galice qui est un lieu de fort matriarchat où les femmes sont très puissantes. D'ailleurs, dans cette région aujourd'hui, il y a une forte dépopulation, mais il y a encore des femmes qui sont restées là, celles qui sont en train de pousser un peu la région. Et Benedicta, elle incarne ça. Elle incarne cet amour infini, cette force infinie. Cette beauté infinie.
Lorsqu'elle se rend à un enterrement, c'est un autre plan du film. On loue le retour de son fils, en lui disant qu'elle est chanceuse, mais qu'elle l'a bien mérité parce qu'elle a tant souffert. Mais bon, on n'en sait pas davantage sur la vie dure endurée par cette femme. Mais sinon encore, que la souffrance est présente. Qu'elle est là, quoi, dans les mots d'une villageoise, qu'elle est là dans les mots de Benedicta elle-même. Comme si c'était vraiment le centre de la condition humaine que vous filmez, Oliver Lacher. Que la condition humaine, pour vous, peut-être comme la condition animale, si on en croit les yeux brûlés du cheval à la fin, elle est souffrance, d'abord.
Un maître, un jour, m'a dit 40 parties de souffrance pour une de joie.
Partie de cartes?
Non, enfin, un morceau, on va dire. Si la vie, il a 40... parties de cartes. Mais quelle partie de joie? Quelle partie de... Non, enfin, c'est... Quel bonheur, comme je disais avant, non? Quand on est mouillé, on a les pieds trempés, on rentre à la maison, et on peut allumer un feu, non? Enfin, si on n'aurait pas souffert, se fatiguer, la plaisir serait moins, non? Ce n'est pas un film... Bien évidemment, c'est un film qui a quelque chose de crépusculaire. On est en train de filmer en Europe, mais deux films que j'ai fait avant, je les ai fait en Afrique. J'ai vécu 12 ans au Maroc. C'était des films beaucoup plus lumineux, joyeux. Bien évidemment, on fait un film en Europe, doit avoir un peu quelque chose de taciturne. Non, on est quand même...
Parce que quoi? Parce que c'est un monde qui meurt?
C'est un monde qui meurt. Après, il y a une acceptation de cette souffrance. Ce n'est pas un film obscur. Enfin, il y a quand même de la légèreté, il y a de la bonté. Mais oui, c'est un monde qui meurt et c'est pas grave. C'est pas grave. Le problème, c'est que bon, on meurt pas avec dignité, non, je crois. Non.
Ça dépend qui. Il y a un vieil homme qui s'accroche à son tuyau avec lequel il n'éteindra aucun feu, avec lequel il ne mettra pas fin à la force qui détruit probablement tout ce qui reste de sa vie. On peut considérer qu'il regarde le monde mourir avec... Enfin, il s'accroche, mais il est digne.
Ils sont dignes, oui. Ils veulent, c'est des résistants, ils vont pas se mentir à eux-mêmes, ils vont continuer avec leurs valeurs et leur dignité jusqu'à la fin, non? Je crois que c'est un peu ce qu'on doit apprendre un peu en Europe, non?
C'est-à-dire, c'est pas grave de mourir, on appartient à un monde qui meurt, c'est comme ça, mais par contre, faisons en sorte que ce monde-là parte avec nous dignement.
Comme je vous ai dit avant, je suis assez déterministe. J'aime beaucoup quelqu'un qui disait que la vie est une espèce de rail, de train. L'être humain est comme un train qui va dans des rails. Il peut pas trop tourner. Non,
vous n'êtes pas Kafka, quoi. Kafka, il dit qu'on peut sauter en dehors des rails du train. Non. Vous dites non, on est sur les rails et on y va.
On est dans les rails, sauf que, au contraire que Kafka, on peut décider si on va en première, en deuxième ou en troisième classe. Je crois que Kafka allait en troisième classe parce qu'il n'était pas dans cette acceptation. Il était comme un homme.
Lui, il dit qu'il faut sauter en dehors des rails.
Ah non, mais c'est impossible. Voilà, il est en train de nager contre courant. Enfin, il faut nager avec le courant. Il souffre. C'est la fracture de l'être contemporain, de l'être humain moderne, non, qui croit qu'il est libre quand il ne l'est pas, non. Et voilà, je crois que Benedita et Amador vont en première classe, ou au moins en deuxième, proche de la première classe.
En tout cas,
parce
ce qui est sûr, c'est qu'ils nagent avec le courant, ça c'est certain.
Ils nagent avec le courant, et donc voilà, évidemment la souffrance est là, mais voilà, cette acceptation de la souffrance fait une place donne une place à être heureux, quoi, à l'acceptation, à la douceur de la souveraine soumission.
Il y a un plan de cette immense joie, et c'est d'ailleurs un des plans où la lumière est la plus franche, la plus claire à l'écran. Oliver Latché, c'est une vache, elle est blonde, rousse, elle est transportée, et puis vous la filmez de très près, vous filmez son regard, ses oreilles, ses naseaux, son flanc. C'est un plan qui a quand même une petite durée, quoi, qui a quand même une petite existence. Donc on a le temps de la fréquenter, cette vache-là. Et c'est vraiment un endroit, il me semble, d'immanence, quoi. Enfin,
de communion.
Ah ouais, vraiment, totalement. S'il y a un moment de joie pure, c'est notre échange de regard avec cette vache.
Oui, on est, comme je disais avant, des fois, on n'est pas là, non? Et là, j'avais envie vraiment de dilater cette image, non, pour qu'on soit là, pour qu'on sent la vache, pour qu'on regarde ses yeux, pour qu'elle nous regarde, non. En plus, on a choisi ce morceau de Leonard Cohen, Suzanne aussi, qui donne à cette séquence, quelque chose aussi de très immanent, mais aussi très transcendant. L'image, on passe de la vache et elle se perd dans la nature, le soleil. La chanson parle aussi du Christ. On est aussi en train de désirer des beaux horizons pour Amador, non? C'est le premier moment qu'il est avec quelqu'un qui ne le juge pas après sa mère. Les conventions du récit nous font rêver à ce moment, j'espère.
Thank you.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Si j'étais pas curieux, bah, je serais à leur place, là, je serais un peu taiseux, un peu voilà. Et donc, j'ai l'impression que, effectivement, nous les oublions, et que, on a un peu changé de point de vue sur eux, et on va être obligé de le changer, ce point de vue. Parce que dans les mois qui viennent, ou dans les années qui viennent, finalement, ils vont représenter quelque chose qui nous est très cher à nous, Français, et surtout particulièrement qui est la quintessence du Massif central, c'est la liberté. C'est le refus de la hiérarchisation, c'est le refus d'avoir un patron. Moi, je le dis en riant parce que je vois que je suis marqué par ça, moi aussi. Parce que, quelque part, c'est pour ça que je suis photographe et cinéaste indépendant. Et donc, effectivement, ça veut pas dire que je suis inadapté au monde moderne. Bien au contraire, je pense que je le suis. C'est simplement, effectivement, peut-être que dans les années qui viennent, on le voit, je pense que les ouvriers, ils sont pas tellement, hein, malheureusement, les ouvriers aussi tendent à disparaître. En tous les cas, un certain travail à la chaîne tend à disparaître. C'est une bonne chose, mais c'est aussi un monde en voie de disparition et qu'on va aller vers quelque chose d'autre.
Eh bien, je ne sais pas qui aurait pu prévoir qu'on allait autant parler de liberté dans cet entretien avec vous, Oliver Latché. Ici, c'est Raymond Depardon qui était au micro de Kathleen Evin dans L'Humeur Vagabonde en 2008 sur France Inter. Quand il dit « il parle des paysans qu'il filme comme un monde en train de disparaître. Et dit-il, quelques années plus tard, peut-être maintenant, puisqu'on est presque... on est plus de 10 ans après, ils seront l'image d'une liberté, quelque chose d'une vie sans patron. Alors, peut-être premièrement, c'est assez discutable que la vie de paysan est une vie sans patron, mais est-ce que vous, quand vous filmez Amador et quand vous filmez Benedicta, vous avez l'impression de filmer des gens qui sont libres, qui sont sans patron, justement?
Je crois que il faut parler de la liberté. Je crois que c'est le vrai défi épistémologique aujourd'hui, non? Quand on parle de genre, de l'inadaptation, de l'inadaptation de classe ou de race, ou enfin, il faut toujours revenir un peu à la notion de la liberté. Moi, je crois que avec mon idéologie et mes sentiments, je crois que la vraie inadaptation, c'est une inadaptation spirituelle. Il y a un désarroi profond intérieur. Donc, la notion de la liberté, de l'émancipation, de la souveraineté est reliée à cette liberté de l'âme, on va dire. Non donc, avec les yeux de la modernité, on pourrait voir Amador et Benedicta et beaucoup des paysans, on pourrait dire, ils sont pauvres, ils souffrent, ils sont pas libres. Avec le regard de la tradition, on pourrait les voir souverains, libres, non? Parce que ils se montent pas, parce que ils sont riches dans leur contentement, ils sont en orbite. Donc c'est assez complexe. Enfin, c'est bien évidemment ma condition de classe. Je suis fils d'immigrants, fils de campagnards. Bien évidemment, il y a dans moi comme artiste, il y a quand même une rage aussi, non? Il y a un désarroi aussi de classe, non? Mais il y a une frustration en même temps en parallèle que les élites ne sont pas vraiment des élites aujourd'hui, non? Enfin, il y a aussi une rage presque aristocrate, non? Non, voilà, parce que c'est pas une classe qui est en train de guider, qui est en train d'inspirer, ni spirituellement, ni culturellement. Enfin, c'est dommage. Enfin, je crois au concept des élites, mais pas à ces élites, malheureusement. Donc voilà, il y a cette rage un peu dans les deux sens, non? Mais oui, je crois qu'Amador et Benedicta, à la fin du film, quand je les vois partir, je sais qu'il y a des spectateurs qui vont croire que leur vie est malheureuse, mais moi, je les admire. Pour moi, c'est des maîtres, c'est des gens libres, et j'espère féminiser ma vie et mes pas à un point d'arriver à ce niveau d'acceptation.
C'est quoi le rapport avec le fait de féminiser l'existence?
Oui, bon, ça c'est un autre sujet. Enfin, de bon, d'avoir un voilà de d'être plutôt dans une énergie un peu d'acceptation, on va dire.
Qui est une énergie féminine.
Je parle pas du genre, hein. Je parle d'énergie, d'énergie qui habite le monde, l'univers. C'est, et je crois que l'art, je crois que l'ésotérisme, les spiritualités sont le domaine de cette énergie féminine, hein. Ambiguë, polysémique, lyrique, transcendante. Je crois malheureusement aujourd'hui on habite des temps très de l'empire de la lumière, des temps très masculins, d'énergie trop masculine. Tout doit être rempli de sens, tout doit être compris, tout doit. On est dans la sémantique, on est dans le langage, et même en regard l'art, cet absolutisme de la lumière, on le voit aussi dans l'art. Il y a plus de place pour l'ombre, il y a plus de place pour l'ambiguïté, pour le non-dit, pour le silence, pour et dans nos vies aussi.
Il y en a encore un peu, puisque vous avez obtenu le prix spécial, le prix du jury au Festival de Cannes.
Oui, on en voit. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est. Je trouve que c'est aussi. Enfin, si on compare notre travail avec celui des maîtres, enfin, on voit quand même qu'on est dans un peu de décadence aussi. Bien évidemment, et c'est ça qui est un peu fait de France quand même. Pour un artiste, c'est vraiment une maison, enfin, un temple, parce que. Enfin, quand même, il y a une tradition de cinéma d'auteur, il y a une tradition d'accepter les ombres. Il y a les spectateurs, face à une œuvre d'art, n'essayent pas de comprendre tout. Elle se met à l'aise, elle laisse que l'œuvre d'art le pénètre, non? Et l'habite. Et après aussi, avec une manière aussi que vous avez ici, des fois, de décrire, de traduire un peu ses émotions en paroles, non? Mais quand même, on est dans une dérive où, voilà, les spectateurs, malheureusement, il est mal à l'aise avec, avec le mystère.
Pour revenir sur la vie heureuse ou malheureuse, on entend bien dans vos mots, Oliver Laché, que ça n'a rien à voir avec qui a mis le feu. Qui est un des mystères, justement, qui plane à la fin du film. On ne sait pas. Si c'est Amador qui a mis le feu. Il y a plusieurs plans qui peuvent nous mener à penser ça. Il y a d'autres plans qui vont nous mener à penser l'inverse. On sent bien que l'un des objectifs du film, c'est que le spectateur ou la spectatrice ne sorte pas avec une certitude de qui a mis le feu à la forêt, puisque viendra le feu, il y en a un à la fin. En effet, comme si ça ne vous concernait pas.
Écoutez, je pars du principe que moi aussi je suis un coupable. J'ai cautionné à ce mythe du progrès, à cette religion des villes, à cet absolutisme, ce fondamentalisme des villes, de la modernité. Et je sens qu'on est un peu tous coupables parce que, bien évidemment, on pourrait faire mieux. L'être humain, il est toujours coupable parce que l'être humain est une machine de donner de l'amour et de servir. Et on peut toujours faire plus, faire mieux. Donc, en même temps, on se dit, voilà, on est aussi innocent parce que on fait ce qu'on peut. Surtout dans les moments qu'on doit vivre, que c'est des moments où les contradictions et les paradoxes de l'être humain se soulignent. Aujourd'hui, c'est très difficile. Donc voilà. Comme on est tous coupables et donc tous innocents, c'est une question qui m'intéresse plus. Enfin, bien évidemment, Amador, il est coupable, il est innocent. Je crois que c'est ces temps qui sont un peu coupables. Et même pas, parce que, voilà, on devait passer par ce moment, non? On devait, notre civilisation, notre société, notre monde devait passer aussi par ces moments, donc, ce que j'essaye un peu comme
artiste. Par ce moment quoi, d'incendie, de
ces moments un peu de ces moments de contradiction, de paradoxe. Ce que j'essaye un peu comme artiste, c'est de bien évidemment comme citadin, ça m'invite un peu cette douleur, mais j'essaye de déstyliser cette douleur, cette rage, de donner trois pas en arrière et d'essayer de voir l'être humain avec un peu de distance et de accepter ces paradoxes, de montrer à les spectateurs cette complexité du monde à la fin du film. On empathise avec tout le monde, on comprend tout le monde, on comprend les villageois, on comprend Amador, on comprend sa mère, on comprend les animaux.
Est-ce qu'on comprend vraiment le cheval aux yeux brûlés?
Ben, on le comprend, on empathise avec sa douleur. C'est le cheval, c'est qui véhicule la douleur de qui qu'on peut pas comprendre, cette souffrance, non? Qu'on a tous, non? D'ailleurs, il y a des êtres humains qui souffrent aussi dans le film. Regardez la beauté de les spectateurs qui soulignent surtout la douleur du cheval, qui empathisent surtout avec un cheval.
Curieusement, le cinéma on pourrait dire, et nous empêche de l'entendre. Curieusement, c'est une machine tellement bien faite, tellement bien construite, qu'on a une espèce d'homogénéité qui associe par le synchronisme le son et l'image, et qui fait qu'il y a des scènes, des actions devant nous, et on oublie que cette action est nourrie par le son, et que c'est le son qui l'a fait vivre, que le son est la chair de ces images, finalement. Ce même synchronisme, il est intéressant dans la mesure où on peut placer à des points de synchro des éléments qui ne sont pas les éléments attendus qui sont associés à cette image. Et en l'occurrence, ça met au relatif ce que l'on voit. Ça prend de la distance, ça nous met l'image dans une poétique, finalement, dans cet écart qui est finalement ce que l'on connaît dans le dessin animé ou ce qu'on connaît dans différentes formes cinématographiques ou le cinéma de science-fiction ou le cinéma d'horreur. C'est par le son, finalement, que l'écart se produit et qu'on arrive dans un écart au réel, c'est-à-dire une déréalisation du monde.
C'est Daniel Dehaye, qui est ingénieur du son, qui est aussi auteur sur le son, particulièrement au cinéma, sur l'écriture du son, ici une archive en 2011 au micro de Thomas Baumgartner dans Les Passagers de la Nuit sur France Culture. Je le rappelais, parce que vous me l'avez rappelé, que vous avez obtenu aussi un prix pour la meilleure création sonore et qu'il y a un travail sur le son singulièrement palpable au début du film, quand les arbres sont d'abord filmés, balayés, puis ensuite fauchés. Il y a une partie de la grandiloquence de l'ouverture de ce film qui passe par le silence, le moindre bruit, on va dire. Quelle a été l'écriture sonore de ce film-là pour vous, Oliver Latché?
L'objectif principal est de faire sentir à les spectateurs un monde habité. Enfin, on essaie un peu de capturer l'esprit du monde, non? Je crois, les artistes, de manière plus consciente ou inconsciente, non? Cette chose qui vibre derrière les choses, cette intelligence créative qui palpite, non? Derrière, qui respire derrière le monde des formes matérielles, non? Et donc voilà, il y a des moments où la nature, on sent ces palpitements. Cette respiration, et il y a d'autres moments où le silence prend place. J'aime beaucoup quand on sent que on est là et on n'est pas là en même temps. Non, c'est comme si il y aurait une autre. On évoque une autre dimension avec ces moments de silence ou quand la nature contient la respiration. C'est des moments d'inquiétude étrange. On sent cette inquiétude étrange. Enfin, comme j'ai dit avant, le cinéma a la capacité de pouvoir transmettre, nous faire sentir ce mystère, ce monde habité. C'est vraiment des petits centimètres. Ce qui se cache derrière le monde des formes matérielles, ce qu'on appelle le monde des formes subtiles ou spirituelles, non, on peut pas l'évoquer, on peut pas le représenter, mais on peut le faire sentir. Mais c'est très 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 fin, cette ligne. Et bien évidemment, le son, l'image, la géométrie spirituelle des images, la proportion des images, de la même manière que la proportion dans une architecture ou dans un poème peuvent nous, ou dans la parole, voilà, peuvent nous faire sentir ça. J'espère, enfin, en tout cas, c'est comme toujours, je parle de mes intentions.
Oui,
je ne sais pas si c'est dans le film, mais c'est ce que je voudrais évoquer.
Vous savez vraiment pas si c'est dans le film? Vous êtes dans une situation film finit de
c'est
doute
de la
absolu.
Fausse humilité. Il y a des spectateurs qui m'ont déjà parlé et qui peut-être n'arrivent pas à décrire ce qu'ils ont senti, mais je sais que dans l'image il y a une proportion qui est dans les interstices entre les images, il y a quelque chose qui respire.
Ouais. Mais oui, vous le savez.
Si, mais il y a des spectateurs qui peut-être interprètent le film dans un autre sens. Et j'ai peur beaucoup de fois de parler de mes interprétations parce que ces spectateurs vont se sentir frustrés, vont dire « Ah, alors moi j'ai pas senti la même chose que le réalisateur, je me trompe ». Non, non, au contraire, le cinéma, l'œuvre d'art doit transcender l'auteur. Et parce que s'il reste à l'auteur de l'auteur, on n'a pas fait bien notre travail, je crois.
À la hauteur de l'auteur.
Là, c'est comment vous dire?
То есть до тех пор, пока будет существовать человек,
aussi longtemps que l'homme existera,
человек будет стараться, не будет стараться, будет инстинктивно стремиться к творчеству.
il aura une tendance tout à fait instinctive vers la création.
До тех пор, пока он будет ощущать, человек будет ощущать себя человеком, он будет
создать что-то. Il essaiera de créer quelque chose.
Этим самым он напоминает, этим самым он просто связан каким-то образом с создателем.
C'est en cela qu'il a un lien avec son créateur, en quelque sorte.
Потому что творчество, что такое творчество по существу?
La création, qu'est-ce que ça veut dire en fait, la création?
Для чего существует искусство?
À quoi sert l'art?
Почему?
Pourquoi?
Хорошо это или плохо?
Est-ce bien, est-ce mal?
Конструктивно ли это? Или это абсолютно чистое искусство?
Est-ce constructif ou est-ce simplement de l'art?
Но ясно одно, что искусство — это молитва.
Mais il est clair que l'art, c'est une prière.
Это этим все сказано.
Et cela veut tout dire.
При помощи искусства человек выражает свою надежду.
À travers l'art, l'homme exprime son espoir.
И все остальное не имеет никакого значения.
Et le reste n'a aucune importance.
И все, что не выражает надежды.
Et tout ce qui n'exprime pas l'espoir.
И то, что не выражает, не строится на каком-то духовном уровне.
Ce qui n'a pas de fondement spirituel.
Не имеет никакого отношения к искусству.
N'a aucun rapport à l'art.
Кто же его невинного оклевещет? А фарисеи эти на обман мастера, грамотные, хитроумные.
Alors, je ne sais pas quand a été enregistrée la voix de Tarkovski. En tout cas, je sais qu'elle a été diffusée dans un atelier de création radiophonique sur France Culture en 2006. On termine avec la voix de ce grand réalisateur, Oliver Laché, qui parle lui aussi de prière. C'est un mot que vous n'avez pas prononcé jusqu'à maintenant. Mais quand il s'est agi d'écouter ou pas cette archive, vous avez dit que ce serait dommage de ne pas le faire parce que c'était à la fois un maître et un ennemi.
Je suis d'accord avec lui. L'espoir est dans l'essence, dans la genèse du processus créatif. Dans ma tête, des fois, je suis conscient en fait de cette décrépitude dans laquelle on est le monde, mais en même temps, mon cœur me dit le contraire. On peut rediriger un peu cette décadence. Enfin, on peut sauver le monde avec l'art. Tarkovski, c'est quelqu'un qui m'a donné une confiance, beaucoup. Enfin, c'est vraiment été un phare dans le sens qu'il m'a donné cette confiance dans la relation entre le sacré et l'art. Quelque chose qui m'habitait, je l'ai senti en lui un miroir. Mais comme les phares, c'est dangereux. Quand tu t'approches beaucoup au phare, ben, tu vas dans les rochers, non? Lighthouse, on dit un phare en français. Tarkovski, c'est aussi, je trouve aussi ça peut être aussi un miroir déformant. Il a quand même mort très jeune, je crois qu'il était trop habité par l'art. Il y a un moment où l'artiste idolâtre l'art. Et quand l'art, c'est seulement pour moi un outil.
Donc ça veut dire qu'il faut un jour s'en séparer, faut sortir
s'en séparer.
De l'art.
C'est une canne qui nous sert à marcher pendant un moment de notre vie qu'on est aveugle. Mais c'est un moment où on doit, quand on voit, parce que c'est ça, quand on est souverain, émancipé, libre, quand on peut voir, qu'on n'est plus aveugle, il faut laisser la canne contre un mur.
Donc on vous souhaite un jour de plus du tout faire de films.
J'espère mourir et ne plus demander de l'amour à travers mes films et ne plus me faire des questions à travers mon cinéma. Qu'est-ce qu'il faut se demander? La vie, elle est très claire. Et surtout un artiste, non? Et voilà, la vie, elle est belle, mais avec ses contradictions, ses paradoxes. Et voilà, il faut tout simplement en jouir et la célébrer, non?
Donc quand vous avancerez sans canne, quand vous ne serez plus aveugle, vous ne ferez plus de films.
Peut-être que ponctuellement, j'aurai besoin de la canne. Mais l'horizon, c'est de comprendre à travers mon travail aussi mes besoins d'amour, mes névroses, mon inadaptation. Mais pourquoi il faut apprendre à marcher sur l'eau? On peut nager comme tout le monde. Non, ça, c'est bien, pour, au moins pour traverser de l'autre côté, pour revenir à la maison.
C'est pratique.
C'est pratique, nager.
Merci beaucoup, Oliver Laché, que chacun apprenne un petit peu à nager avec le courant et à y voir votre film « Viendra le feu est en salle » aujourd'hui. À la prise de son aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny. À la réalisation, c'était Lise-Marie Barré. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Lucie Riandet et Marianne Chassor qui composent l'émission de Par les temps qui courent. Vous pouvez la réécouter sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent et aussi via l'application France. France Culture. Dans un instant, le journal, 22h. Très belle soirée.